RCF.
Louis XIV est mort le 1er septembre 1715. Nous allons donc avec vous, Jean-François Solnon, profiter de cet anniversaire pour évoquer le règne du roi Soleil et puis la fin de son règne, sa mort et sa succession. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être l'invité de cette série. Vous êtes historien, Jean-François Solnon, vous êtes spécialiste de l'Ancien Régime, auteur de nombreux ouvrages consacrés notamment au roi de France, et vous avez été professeur à l'Université de Franche-Comté. On va commencer, si vous voulez bien, par faire un retour sur le règne de Louis XIV, qui a commencé officiellement alors qu'il n'avait que 5 ans et qui a été un règne très long, peut-être même le plus long de l'histoire des rois de France.
Oui, c'est le règne le plus long. Il fait partie de ces règnes qui, à l'échelle européenne, ont marqué leur temps. Au XVIIe siècle, c'est en effet un très long règne. Et vous avez raison de dire que le règne commence à la mort de son prédécesseur, qui est aussi son père, Louis XIII. Louis XIII meurt en 1643, le roi est mort, vive le roi. Et par conséquent, c'est un enfant de 5 ans qui va monter sur le trône, bien évidemment accompagné par sa mère, Anne d'Autriche, qui exerce les fonctions de régente, et par le cardinal de Mazarin.
Alors j'ai oublié de préciser lors de la présentation un livre que vous publiez chez Perrin et qui s'appelle « Louis XIV, vérité et légende ». Vous démontrez que certaines idées préconçues concernant Louis XIV ne sont pas toujours si fiables que ça. Et parmi ces idées, celle que Louis XIV aurait reçu une mauvaise éducation, est-ce que c'est le cas ?
Oui, pour revenir à l'économie générale du livre, si vous voulez, j'ai été frappé au cours de mon expérience professionnelle de voir répéter inlassablement un certain nombre de légendes autour du roi. Évidemment, on ne prête qu'aux riches, et comme le règne est très long et que la personnalité est très forte, on peut bien admettre en effet que beaucoup de légendes, d'idées fausses, de préjugés se soient répandues. Donc le livre, c'est en quelque sorte une sorte de résumé en petits chapitres de ces légendes qui sont attestées par des citations qui ouvrent chaque chapitre, citations des ennemis de Louis XIV la plupart du temps. Puis ensuite, je me suis amusé donc à les démonter, ces légendes.
Assez tardives pour la plupart d'entre elles, finalement.
Pas toujours. Elles peuvent être contemporaines et elles sont dues à des auteurs prestigieux comme le duc de Saint-Simon, le mémorialiste, grand écrivain français, mais qui est plein de préjugés, qui est une très mauvaise langue, c'est une langue de vipère, alors qui est très précieux pour nous parce que ça a une valeur documentaire, mais il faut regarder ça avec attention.
Et discernement.
Tout à fait. Et puis, il n'est pas le seul. Il y a également Fénelon, l'archevêque de Cambrai, le cygne de Cambrai. Et vous savez, les cygnes sont des animaux quelquefois redoutables. Et lui a été l'auteur d'une lettre envoyée à Louis XIV, qui est une lettre absolument terrible, que Louis XIV n'a certainement pas lue. Sinon, Fénelon, tout archevêque qu'il était, aurait fini à la Bastille. Et puis, il y a bien évidemment tous les pamphlets protestants, hollandais ou anglais, qui s'en prennent à Louis XIV, qui est leur ennemi principal. Donc ça, c'est les contemporains. Et puis alors, après la mort du roi, et longtemps après la mort du roi...
On construit une légende.
On construit une image de Louis XIV, et en particulier, c'est cette image qui est perceptible dans les petits manuels, c'est-à-dire les manuels destinés à l'école primaire, qui ont été rédigés sous la Troisième République. Parce que la Troisième République est née, comme vous le savez, en 1870 et qu'elle a été menacée d'une restauration monarchique. Donc les auteurs de manuels n'avaient pas envie du tout de dire du bien du XVIIe siècle, de l'Ancien Régime, de Louis XIV. Donc on a encore rajouté une couche, en quelque sorte, à ces légendes. Aujourd'hui, il n'y a plus d'enjeux politiques. Par conséquent, on peut essayer de rétablir la vérité.
RCF, la suite de l'histoire.
Concernant l'éducation qu'a reçu Louis XIV.
C'est un exemple fameux parce que c'est en effet ce que nous a dit Saint-Simon. Saint-Simon nous dit que son intelligence était en dessous de la moyenne, que son éducation était une éducation médiocre, quasiment qu'il n'en avait pas reçu. Peut-être faut-il préciser une chose, Saint-Simon joue les témoins oculaires. Or Saint-Simon est né alors que Louis XIV avait 37 ans. Il est né en 1675, au moment où le royaume de France s'agrandit de la Franche-Comté.
Donc il n'est absolument pas témoin de l'éducation
donc,
du roi.
Donc il n'est pas témoin de l'éducation. Il va rencontrer Louis XIV à la cour dans les années 1690 et autres. Et là, quand il affirme que l'éducation a été médiocre, il se trompe. Ce qu'il faut dire, c'est que Louis XIV était probablement un enfant à l'intelligence lente. Ça semble incontestable, c'est-à-dire qu'il lui faut du temps. Mais il a deux autres atouts, c'est qu'il a une très grande mémoire. Donc c'est une éponge, tout ce qu'il entend autour de lui est absorbé et retenu. Et puis aussi c'est quelqu'un qui a compris que, parce qu'il lit peu, mais il va suppléer à ce manque par le goût pour la conversation. Donc il a de bons précepteurs, il a des gens qui vont préparer le travail avec lui, puis au fur et à mesure qu'il monte en âge, eh bien, il va s'intéresser à ce qui se dit à la cour, et en particulier, il aura été très impressionné par les qualités intellectuelles de certaines femmes, et notamment de Marie Mancini, qui est son premier amour. Alors, cette jeune femme qui a à peu près son âge, qui n'est pas très belle, qui ne correspond pas exactement au canon de beauté que Louis XIV aimera plus tard, mais c'est une femme extrêmement intelligente et très cultivée, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement le latin, ce qui n'est probablement pas le cas du roi, et qui est un grand amateur de romans. Et c'est elle qui va continuer, ensuite il y aura d'autres personnages, Madame de Montespan est une femme également de qualité sur ce plan intellectuel, et Louis XIV va faire en quelque sorte la formation continue.
Extrait du film Le Roi danse, réalisé par Alain Corbiot.
Messieurs. Madame. Aujourd'hui, la face du théâtre change. Jusqu'à ce jour, j'ai laissé gouverner mes affaires par mes ministres, sous la direction de feu le cardinal Mazarin. Désormais, je régnerai seul. Je gouvernerai par moi-même. Vous m'aiderez de vos conseils quand je vous les demanderai. Je vous ordonne de ne rien signer, pas même un passeport sans mon commandement. Vous savez mes volontés, messieurs. C'est à vous maintenant de les exécuter.
Alors qu'est-ce qui fait, selon vous, Jean-François Solnon, que Louis XIV, n'étant pas une intelligence hors norme, n'étant pas quelqu'un de brillant au point de vue intellectuel, a pourtant été un roi, un monarque brillant, d'où d'ailleurs son surnom de roi soleil.
On peut être beau parleur et mauvais chef d'État.
Il était mauvais chef d'État ?
Non, je ne pense pas dans son cas-là. Ses paroles sont toujours des paroles laconiques. C'est un peu le style d'ailleurs de la conversation et des écrits d'ailleurs au XVIIe siècle. Le classicisme français, c'est le laconisme. On n'est pas au temps du romantisme là où on s'épanche. Et il est vrai qu'il écoute beaucoup, il parle relativement peu, il ne répond pas immédiatement aux questions qu'on lui pose. D'ailleurs, quand on veut poser une question à Louis XIV, au roi, on s'adresse d'abord à son capitaine des gardes qui est à côté. On ne veut pas l'apostropher comme ça dans la galerie des glaces. Et il répond souvent des paroles toutes simples du type « je verrai ». Alors on se dit, répéter ainsi « je verrai », est-ce que ce n'est pas la marque même d'un esprit trop lent ? Pas forcément, non.
Ou indécis,
non, pas forcément.
Il
je crois que c'est
temps.
Surtout c'est qu'il ne veut pas faire de réponse trop prompte. Donc qui pourrait se mordre les doigts par la suite. Songez aux bourdes de nos hommes politiques aujourd'hui.
Qui parlent trop vite.
Qui parlent très vite et qui répondent aux journalistes avec passion. Ouais. Mais évidemment, le lendemain, ils peuvent regretter une parole. On parle de dérapage, hein, et souvent. Et là, le « je verrai » fait qu'il reste dans une sorte de secret, parce que c'est très important dans le domaine de l'État, le secret de l'État, et puis surtout ne pas s'engager trop vite.
Donc de la prudence.
Oui, c'est incontestable. Mais ça, c'est une qualité.
Ça non plus, ça ne fait pas forcément de lui un très grand roi.
Alors, qu'est-ce qui fait de Louis XIV un grand roi ? Si on posait la question au public en faisant une sorte de micro-trottoir, il est très peu probable qu'on réponde « c'était un grand conquérant ». C'est quelqu'un, et pourtant c'est le cas, qui a agrandi le royaume de France. Non, je crois que l'idée du grand roi, et ça c'est Voltaire qui en est à l'origine, à juste titre d'ailleurs, c'est le fait que c'est un homme qui a protégé les arts et les lettres. C'est cet aspect-là. Quand Voltaire, dans le siècle de Louis XIV, au milieu du XVIIIe siècle, le livre publié, parle du règne de Louis XIV, il fait de ce règne un siècle. et qu'il compare au siècle de Périclès et de César et Auguste et à celui des Médicis. Il considère que c'est le quatrième grand siècle de l'histoire de l'humanité. Donc c'est plutôt... Et aujourd'hui, avec notre état d'esprit, c'est pas évidemment les combats militaires, les victoires ou les agrandissements de territoire qui nous parlent le plus. Mais le fait que cet homme soit le protecteur de Racine, de Corneille, de Boileau, de Molière, de Lully, de Delalande, le constructeur de Versailles, c'est ça qui reste.
Pourquoi
finalement.
Pourquoi c'est ça qui reste? Parce que c'est ce dont nous avons hérité, nous, aujourd'hui. C'est ce qui traverse les siècles.
Parce qu'on en a hérité, parce qu'il y a une pérennité de cette action. Vous direz, il y a aussi une pérennité du fait que Lille, Strasbourg, Besançon soient encore français. C'est évident. Mais on oublie plus vite, si vous voulez, ces aspects qui nous paraissent un petit peu austères. Par exemple, les grandes ordonnances civiles ou criminelles ou de procédures criminelles qui datent du règne de Louis XIV, c'est des choses qu'on oublie aujourd'hui assez rapidement et on est plutôt sensible à ce qui est le rayonnement d'une civilisation.
Est-ce qu'il est vrai que quand on parlait du roi en Europe... Tout le monde savait de qui on parlait. On parlait de Louis XIV.
Le roi, c'est Louis XIV. Le roi, c'est Louis XIV. C'est le plus célèbre, c'est incontestable. Louis XIV, d'ailleurs, avait lui-même un peu de mépris pour son homologue germanique, c'est-à-dire l'empereur Habsbourg, pour la raison suivante. Pourtant, l'empire des Habsbourg a été illustré par Charles Quint, qui est tout de même un grand personnage. Mais parce que être empereur, c'est être élu. Élu par un collège d'électeurs. Alors on sait bien que ce sont les Habsbourg qui ont occupé le trône depuis très très longtemps et jusqu'au début du XXe siècle, mais il n'en reste pas moins que le fait d'être élu semble moins noble que d'être l'héritier du trône et d'être
de droit divin.
Et de placer là par la volonté de Dieu. Ça c'est incontestable. Mais oui, le roi au XVIIe siècle, c'est forcément le roi de France.
Poursuivons l'évocation du règne de Louis XIV avec vous, Jean-François Solnon, à l'occasion du 300e anniversaire de sa mort, le 1er septembre 1715. Nous allons essayer de nous intéresser plus précisément à la fin de règne, qui, alors pour le coup, sans mauvais jeu de mots, n'a pas forcément été très brillante. Est-ce que ça fait partie des légendes que vous évoquez dans votre livre ou pas ?
Non, c'est pas une légende. C'est pas une légende, c'est que le règne est long, on l'a dit, très très long. Et par conséquent, tout naturellement, les succès doivent laisser la place, si j'ose dire, aux échecs ou aux moindres succès. Plus la vie est longue, évidemment, plus on a de chances ou de risques d'avoir des succès et des échecs. Et le roi vieillit. Le roi s'est installé définitivement à Versailles en 1682. Mais ce qu'il faut dire, c'est que Marie-Thérèse, son épouse, meurt l'année suivante. Elle a très peu connu finalement Versailles. Colbert meurt également l'année suivante, en 1683 donc. Et là, la vie à Versailles, ben, c'est une vie qui va être marquée par toutes sortes d'événements politiques, évidemment. Il y a entre autres la révocation de l'édit de Nantes. Mais il y a aussi deux grandes guerres que la France doit affronter, la guerre de la Ligue d'Augsbourg et surtout, alors à la fin du règne, la guerre de succession d'Espagne qui va accompagner le roi jusqu'à la veille de sa mort, puisque le traité de paix est signé en 1714 et, comme vous l'avez rappelé, Louis XIV meurt le 1er septembre 1715. Mais à ces difficultés de politique générale et surtout de politique étrangère s'ajoutent des difficultés qui concernent l'homme et la famille royale. Puisque Louis XIV a eu le malheur de perdre ses héritiers successifs. La famille royale est en deuil constamment à partir de 1711, lorsque meurt celui qu'on appelait le Grand Dauphin, qu'on appelait aussi Monseigneur, qui était le fils de Louis XIV. Louis XIV a eu beaucoup de filles et un seul fils qui était promis à la succession. Donc le Grand Dauphin meurt en 1711. Puis lui succède le fils de celui-ci, c'est-à-dire le duc de Bourgogne, qui était le nouveau dauphin.
Le petit-fils, hein, donc.
Donc le petit-fils du roi, qui meurt au mois de février, le 18 février 1712, après avoir perdu 8 jours avant son épouse, Marie-Adélaïde de Savoie, qui aimait beaucoup le roi, d'ailleurs. Et puis il y a un troisième décès, le fils aîné de ce duc de Bourgogne, duc de Bretagne. Et puis un quatrième, en 1714, qui est le duc de Berry. Donc on voit tous les héritiers possibles, les successeurs possibles du roi disparaître. Et en 1715, eh bien, il ne reste à Versailles que l'arrière-petit-fils de Louis XIV, qui s'appelle Louis, qui va être le futur Louis XV et qui a 5 ans lorsque le roi meurt. Donc ça, ce sont des épreuves terribles qui accompagnaient des difficultés donc militaires au cours de la guerre de succession d'Espagne. La France a été battue à plusieurs reprises. Il y a des défaites célèbres comme Blenheim, comme Ramilly, comme Audenarde, comme Malplaquet. La ville de Lille, qui avait été conquise par Louis XIV au début de son règne, est prise également par les Anglo-Hollandais. Et par conséquent, là, la France risque d'être envahie. La France n'a été sauvée qu'in extremis par le maréchal de Villars à la victoire de Denain. Vous voyez, Denain, c'est le nord de la France, en 1712. Donc c'est une dernière partie du règne qui est une partie extrêmement difficile. Est-ce que ça veut dire que Louis XIV a imposé une sorte d'atmosphère morose, maussade à la cour à Versailles?
C'est ce qu'on dit souvent d'ailleurs, aidé dans ce domaine par Madame de Maintenon.
Bien entendu, qui est toujours présentée comme une sorte de rabat-joie, qui est une femme de grande piété, qui est une dévote et qui aurait en effet enlevé tout plaisir de vivre à la cour du roi. C'est inexact, il y a encore des divertissements, il y a des fêtes. Peut-être que le roi n'assiste pas à toutes ces fêtes, à tous ces divertissements. Ben, là, je l'explique. Et puis aussi, c'est que ben, il conduit toujours les affaires de l'État. Car il y a une vertu que l'on peut reconnaître à Louis XIV, même chez ceux qui ne l'aiment pas, c'est que c'est un homme qui fait son travail.
C'est un grand travailleur.
C'est un grand travailleur et c'est quelqu'un qui assume ses responsabilités, ce qui ne sera pas le cas forcément toujours de ses successeurs. Louis XIV a vécu en public constamment, a vécu en représentation constamment et il assure ses tâches jusqu'au dernier moment. Lorsqu'il est malade, nous allons probablement y revenir, eh bien, il continue de présider le Conseil des Finances, le Conseil des Ministres. Et songez que le lendemain de cette fameuse opération dont on a beaucoup parlé, de la fistule, une fistule mal placée, où le roi a été opéré évidemment sans aucune anesthésie.
Et il a atrocement souffert, dit-on.
Il a véritablement souffert avec beaucoup de courage. Eh bien, le lendemain, depuis son lit, plus exactement depuis son fauteuil qui a été placé au bout de son lit, il préside le Conseil. Donc c'est un travailleur, c'est quelqu'un qui a su conduire en même temps les divertissements nécessaires pour attirer à la cour des nobles et pour les retenir, en même temps que les charges gouvernementales.
C'est probablement ce qui fait de lui d'ailleurs un grand roi,
là aussi,
sa capacité de travail.
Le grand roi, c'est celui qui assume ses tâches.
Le métier de roi est grand, noble et délicieux.
Extrait du film « L'allée du roi » réalisé par Nina Companese.
Mais il n'est pas exempt de peine, de fatigue et d'inquiétude. À la place où il est, un roi ne peut rencontrer personne qui ait seulement une idée de ses plaisirs et de ses peines. À cette hauteur, il est trop seul pour pouvoir se confier.
Jean-François Solnon, parmi les grandes décisions ou les grands moments qui ont marqué la fin du règne de Louis XIV, il y a la révocation de l'édit de Nantes, vous en avez parlé rapidement, en 1685. C'est vraiment un moment clé de son règne, ça?
Pour nous, aujourd'hui, épris de tolérance, c'est un moment important. Et c'est un reproche sans fin que l'on fait au roi. C'est incontestable. Sans excuser, sans justifier cette décision, il faut se replonger tout de même dans l'esprit de l'époque. Le mot de tolérance n'a pas du tout le même sens qu'aujourd'hui. Au XVIIe siècle, tolérer, ça veut dire simplement être obligé d'accepter ce que l'on ne peut pas empêcher. Ce qui est très différent de notre conception, beaucoup plus ouverte et positive, de la tolérance d'aujourd'hui. Louis XIV est persuadé, et on le persuade, qu'il y a quasiment plus de protestants en France, et par conséquent qu'il n'est pas nécessaire de maintenir l'édit, qui était d'ailleurs un édit provisoire, signé par Henri IV en 1598.
Qui autorisait les protestants à célébrer leur culte.
À célébrer leur culte, avoir donc la liberté de conscience et la liberté de culte. C'est sûr que c'est une faute de Louis XIV. Il y a une deuxième erreur de Louis XIV qu'on lui reproche aujourd'hui beaucoup, c'est la dévastation du Palatinat au cours de la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Donc ce sont deux événements fâcheux pour l'image du roi Soleil, en quelque sorte, qu'il faut encore une fois essayer de replacer dans leur contexte.
Vous précisez dans le livre « Vérité et légende » de Louis XIV que Madame de Maintenon n'a rien à voir avec cette décision.
Non, oui, on a attribué encore une fois à Françoise d'Aubigné, marquise de Maintenon, beaucoup de responsabilités, en particulier celle-ci. C'est certainement pas le cas. Il semble plutôt que la révocation de l'édit de Nantes en 1685 soit due à Michel Letellier, qui était chancelier de France. On n'est pas sûr du tout que Louvois ait joué un rôle. Il y a autour du roi, et Madame de Maintenon fait partie du groupe, des gens qui pensent qu'il vaut mieux encore rester dans l'esprit d'une sorte de conciliation, de ramener par la douceur les protestants au bercail catholique, et non pas par la violence.
Françoise d'Aubigné, donc Madame de Maintenon, a-t-elle eu une influence notable sur Louis XIV, autant qu'on le dit? Et qu'est-ce qu'elle lui a apporté dans ces dernières années?
C'est un petit peu compliqué de résumer en quelques phrases ce qu'une femme peut apporter à un homme qu'elle a épousé, d'ailleurs, ça on en est à peu près sûr. C'est une femme pondérée, c'est une femme de grande culture. Pondérée, ben, ça faisait une belle différence avec Madame de Montespan, parce que Madame de Montespan était une femme qui avait un très fort caractère, qui était superbe physiquement, elle enchantait évidemment le roi, elle avait la parole facile, elle avait beaucoup de sens de la répartie. Madame de Maintenon est beaucoup plus calme, son action est moins visible. Je ne dis pas qu'elle a sans cesse comploté contre le roi, c'est pas ça, mais elle écoute, elle est présente quand le roi va tenir conseil ou va recevoir plutôt des ministres chez elle. Elle écoute, elle ne dit rien, mais elle sait tout en quelque sorte. Et son action a été une action plutôt discrète. Lorsqu'elle veut pousser le roi dans des directions religieuses qu'il ne souhaite pas suivre, il garde son entière liberté. Donc, vous voyez,
Influence est donc assez
Son influence
relative.
Existe, c'est à peu près normal. C'est une femme que le roi voit tous les jours, évidemment. Il va travailler chez elle et puis il a en face de lui quelqu'un qui est capable de raisonner et d'échanger. Mais il ne faut pas voir Madame de Maintenon comme une sorte d'éminence grise du roi.
Il l'épouse relativement tard ?
Il l'épouse après, évidemment, la mort de Marie-Thérèse, très tôt après la mort de Marie-Thérèse. Bon, la liaison, comme vous savez, existait déjà, et elle existait même en même temps que celle de Madame de Montespan. Il l'épouse très tôt et le secret, pendant longtemps, est bien gardé.
François Solnon, parmi les idées toutes faites que vous soulevez dans votre livre paru chez Perrin, il y a celle qui consiste à dire que Louis XIV avait une santé de fer. Est-ce que c'est vrai ?
Oui. Oui, c'est vrai. D'abord, sa longévité le démontre. Et puis, on sait tout de même beaucoup de choses sur la vie quotidienne du roi, parce que le roi a une vie extraordinairement réglée. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs, dans le vocabulaire de l'époque, les heures réglées du roi. On sait exactement ce que fait le roi chaque jour. Un contemporain a pu dire, avec un almanach et une montre, on peut savoir ce que fait le roi. Donc, on connaît beaucoup de choses sur la santé du roi. Oui, Louis XIV a une excellente santé et c'est quelqu'un qui aime être en plein air. Donc, chaque fois qu'il le peut, il va quitter la résidence dans laquelle il vit. C'est pas toujours Versailles. Il a vécu au Louvre, aux Tuileries, à Saint-Germain-en-Laye, à Fontainebleau, à Compiègne, etc., à Marly et à Trianon. Chaque fois qu'il peut, évidemment, il aime sortir. Alors, sortir, ça veut dire des promenades à cheval, des promenades à pied. Ensuite, quand l'âge viendra, des promenades avec une petite chaise roulante. On a un tableau qui nous montre, d'ailleurs, cette petite chaise, une espèce de tricycle, avec laquelle on le promène dans les jardins de Versailles. Donc, il marche, il monte à cheval, il chasse à cour, et c'est quelqu'un qui aime l'air. D'ailleurs, il s'est établi à la campagne. Versailles, c'est à la campagne. Trianon, Marly, c'est à la campagne. Et on sait que, dans ses résidences, il aime ouvrir grand les portes et les fenêtres. Et donc, c'est quelqu'un qui a une très bonne santé. Ça n'a pas empêché, évidemment, d'avoir toutes les maladies possibles et imaginables de la petite enfance. Il a forcément bien résisté. Ça va de la scarlatine à la rougeole, de la rougeole à la blénorragie.
Tout ça, on sait.
Tout ça, on sait. Oui, parce que les médecins du roi, qui étaient célèbres, les Daquin, les Fagon, etc., ont tenu un journal de la santé de Louis XIV. Par conséquent, on sait jusque dans les moindres détails, on sait quand il se purgeait, on sait quand il était saigné, et on se dit d'ailleurs que Louis XIV a réussi à vivre aussi longtemps en assez bonne santé, malgré les médecins. Parce que véritablement, les saignées...
achevaient la plupart des malades.
Généralement, oui. Et puis, la fameuse fistule de 1686, là où le roi doit être opéré et dont il se remet. Et ce n'est que vraiment dans les toutes dernières années, j'allais dire presque un mois avant sa mort. Évidemment, il y a les aléas du corps, surtout au XVIIe siècle, c'est-à-dire qu'il n'a quasiment plus de dents. Personnes âgées n'avaient de dents. On avait souvent des dents abîmées, des dents cariées. Mais c'est quand même jusqu'en 1715, jusqu'à l'été 1715 d'ailleurs, le roi se porte pas si mal. Par conséquent, oui, c'est un homme robuste.
Alors, qu'est-ce qui se passe cet été 1715? Ça, c'est pareil, on le sait, c'est notifié quasiment heure par heure.
Enfin,
c'est
impressionnant. Jour après jour et heure par heure, tout à fait. Mais écoutez, à partir du mois de juillet, on sent que le roi fatigue. Il lui était déjà un petit peu arrivé de s'endormir pendant la journée, un court moment.
Il est né en 1638.
Oui, et il est mort à 77 ans, en 1715. Et là, au mois de juillet, le roi se sent un petit peu plus mal, mais surtout les choses s'aggravent au mois d'août, au début du mois d'août, puisque là, il ressent une douleur à la jambe que le médecin du roi, Fagon, avec force citation latine et beaucoup d'incompétence, considère être une simple sciatique.
La suite de l'histoire, Véronique Alzieu.
Le roi a un médecin.
Oh, il en a plusieurs. Il a un premier médecin, il a des médecins ordinaires, il y a un premier chirurgien qui s'appelle Maréchal, il a des chirurgiens ordinaires. Et là, lorsque le roi est malade au cours de cet été, Fagon, qui nous apparaît comme l'incompétence incarnée, et l'incompétence stupide parce qu'il persiste dans ses erreurs, fait venir des médecins de la cour et de la ville, c'est-à-dire de Paris. Il y a des consultations, alors vous imaginez dans la chambre du roi, quantité de robes noires qui parlent latin, qui examinent les urines et qui évidemment n'examinent pas véritablement le roi, puisqu'on ne faisait pas de palpation comme on fera plus tard, et on considère que c'est une sciatique. Et il y a des signes quand même qui sont tout à fait inquiétants. D'abord, le roi se couche plus tôt que d'ordinaire, il peut se coucher vers 22h, il dort immédiatement, puis ensuite il a des insomnies qui sont très longues, et par conséquent il se rendort le matin, donc il se lève plus tard, lui qui s'est toujours levé tôt et couché tard. Là, sa vie est quelque peu déréglée, et puis surtout il a de la fièvre. Enfin, il ressent la fièvre. Alors, les médecins discutent pour savoir s'il en a ou n'en a pas. Ça nous paraît incroyable. Aujourd'hui, on devrait quand même le savoir assez facilement. Il souffre beaucoup. Il a beaucoup maigri. Le marquis de Dangeau, qui assiste au coucher du roi, le voit avec une simple chemise sur le corps. Il a l'impression d'avoir affaire à un mort. Enfin, que les chairs tombent, on lui voit les os. Il a beaucoup maigri. Et les symptômes, eh bien, s'accroissent en quelque sorte. Et on finit par regarder d'un peu plus près sa jambe gauche,
Qui le fait souffrir.
Qui le fait souffrir. Et alors, on invente, on lui donne du lait d'ânesse, on lui donne du quinquina. On a même accepté de faire venir une sorte de charlatan qui venait du midi de la France avec une décoction que le roi a tout de même avalée. Quand on pense qu'on devait être complètement perdu, puisqu'on a accepté que ce charlatan puisse rentrer dans la chambre du roi et donner sa potion magique.
Ce qui était inimaginable.
C'était absolument inimaginable. Le roi, donc, a cette jambe gauche abîmée. Là, on est bien obligé de se rendre compte qu'il s'agit de la gangrène, et la gangrène commence à toucher le genou, et par conséquent, le roi se sait perdu. La journée, il y a des rémissions, comme souvent dans les maladies. Hein. Le 18 août, il y a une rémission, et quand il y a une rémission, eh bien Louis XIV dit « Bon, alors la semaine prochaine, je dois recevoir l'envoyé de Perse, je dois présider tel conseil. » Bref, il fait déjà des projets pour la suite, parce que c'est un homme qui a travaillé toute sa vie. Et puis, la journée la plus funeste, c'est peut-être le jour de la Saint-Louis, c'est-à-dire le 25 août, où là, les choses s'aggravent. Le lendemain, le roi reçoit le viatique, l'extrême onction. Puis ensuite, il va recevoir successivement ses proches, qui va tenir des petits discours, toujours bien ciselés, bien laconiques, y compris évidemment son arrière-petit-fils, le dauphin, fameux. Le futur Louis XV. Il explique qu'il ne faut pas commettre les mêmes erreurs qu'il a pu commettre lui-même. Mais là, on est un petit peu sur la corde raide, parce que ça dépend des témoignages. Et ça peut varier selon les témoins. Certains insistent, par exemple, Saint-Simon va dire « Le roi s'est reproché d'avoir construit trop de bâtiments et d'avoir trop souvent fait la guerre. » Dans d'autres sources de gens présents, il n'a pas parlé des bâtiments, mais il a parlé de la guerre. C'est vrai, j'ai fait trop souvent la guerre, j'ai trop aimé la guerre, en quelque sorte. Mais le roi qui a rencontré donc... quantité de gens de la cour et d'hommes qui vont jouer un rôle politique, y compris bien sûr son neveu Philippe d'Orléans, le futur régent de France, à qui il ne dit pas toute la vérité d'ailleurs. Il lui dit qu'il sera régent, d'ailleurs c'est la règle, mais il ne lui dit pas que le régent sera entouré d'un conseil de régence dans lequel il n'aura qu'une voix prépondérante et pas une voix majoritaire. Et puis il va s'éteindre donc le dimanche 1er septembre.
Pourquoi est-ce qu'il refuse l'amputation ? Parce que ça aurait été possible ?
Je crois qu'à 77 ans, une opération de cette nature-là n'aurait pas donné de bons résultats. On est à la fin d'un cycle. La vie, tout naturellement, doit s'éteindre.
Il accepte. Il consent à mourir.
Il
ne
faut pas oublier une chose, c'est que la mort du roi est une mort infiniment chrétienne.
C'est-à-dire ?
Chrétienne, c'est-à-dire qu'il accepte la mort, il croit évidemment en la vie éternelle. Il confesse ses péchés et il attend la mort avec une sorte d'acceptation.
Il est paisible ?
C'est un homme qui va mourir paisiblement. C'est une des plus belles morts chrétiennes que l'on connaisse, parce qu'on la connaît dans le détail. Manifestement, là, le roi très chrétien mérite bien son nom. Il n'y a pas d'appréhension. D'ailleurs, il l'a dit à Madame de Maintenon. Dans le courant du mois d'août, on dit que l'ultime passage est un passage difficile. Moi, je ne le ressens pas comme tel. Il n'y a pas de protestation, il n'y a pas de mouvement de refus, si vous voulez, où on voit un moribond se dresser sur son lit en refusant, voire en apostrophant Dieu le Père. Ici, non, il s'agit d'une mort paisible, d'une mort presque héroïque, compte tenu de la douleur qu'il ressent, une mort chrétienne, comme on mourait souvent au XVIIe siècle.
Il est donc mort un dimanche, le 1er septembre 1715 à 8h15. Est-ce que la scène est relatée ?
Ah, la scène est relatée parce qu'évidemment, Louis XIV, qui a passé sa vie en public, meurt en public.
Jean-François Solnon, à partir du moment où le roi meurt, immédiatement, un autre roi lui succède. Il ne peut pas y avoir de vacances dans le règne ou dans le gouvernement de la France.
Non, il y a une pérennité absolue. Le roi est mort, vive le roi aussitôt. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de passer par des intermédiaires. Lorsque on annonce la mort du souverain, son successeur est roi, est pleinement roi dès ce moment-là. Et c'est important parce que ça permet la stabilité du régime.
C'est donc, on l'a dit, l'arrière-petit-fils de Louis XIV qui devient roi. Comme son arrière-grand-père, il est très jeune.
Alors il a 5 ans et il faut par conséquent une régence. Les régences, c'est toujours une période difficile dans l'histoire de la France. C'est une période de fragilité du pouvoir monarchique. C'est un moment souvent où les grands seigneurs redressent la tête et veulent obtenir un certain nombre de privilèges, rivalisent pour exercer l'autorité. Là, le pouvoir a été confié, comme il devait l'être d'ailleurs, à Philippe d'Orléans, le neveu de Louis XIV. Mais Louis XIV avait eu des relations qui passaient par des périodes de confiance et des périodes au contraire de défiance. Il est vrai que Philippe d'Orléans est un homme extrêmement intelligent, cultivé, c'est un grand mélomane d'ailleurs par parenthèse, il est même compositeur de musique, et c'est quelqu'un qui a mené une vie que l'on peut qualifier de débauchée. Et Louis XIV se méfie donc un peu de lui. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il va lui donner un conseil de régence. Un conseil de régence où les décisions seront prises à la pluralité des voix. Philippe d'Orléans a les mains liées. C'est un verrou, en quelque sorte, que Louis XIV a mis. Et lorsque le roi meurt, eh bien, deux jours plus tard, Philippe d'Orléans, régent de France, va demander au Parlement de Paris, non pas de casser le testament de Louis XIV, l'expression juridiquement elle n'est pas exacte, disons modifier le contenu de ce testament de manière à avoir justement la totalité du pouvoir.
Évidemment,
il va l'obtenir immédiatement parce que les parlementaires, quand je dis parlementaires, il faut comprendre magistrats, hein, les magistrats de la cour, qui se réunissent d'ailleurs avec les ducs et pairs, veulent reprendre de l'initiative qu'ils avaient perdue sous le règne de Louis XIV. Et par conséquent, en contrepartie, Philippe d'Orléans va leur accorder le retour à leurs droits de remontrance qui peuvent être faites devant les lois du pouvoir exécutif.
Alors revenons à la mort de Louis XIV, Jean-François Solnon. Quelle image le peuple a-t-il du souverain dans les dernières années de sa vie et au moment de sa mort? Est-ce que c'est une image favorable?
Oh, je crois que, je dirais, le règne est trop long. On n'en a pas la preuve manifeste, mais pour ceux qui écrivent, il y a bien entendu un attachement au roi, parce que le loyalisme monarchique est très fort au XVIIe siècle. Vous savez, il le sera encore, malgré les scandales, malgré des vies tumultueuses, il sera encore fort sous Louis XV, même si on a nommé Louis XV le mal-aimé dans la deuxième partie de son règne. Il sera fort encore jusqu'en 1789-1790. Donc vous imaginez bien qu'au XVIIe siècle, ce loyalisme monarchique est très prégnant. Mais le règne est quand même très très long. Il y a eu quand même beaucoup de guerres. Il y a eu à peu près une trentaine d'années de guerres. Je ne dis pas par là que ces guerres sont toutes de la responsabilité du roi. Mais enfin, ces guerres ont existé. Ça veut dire des morts, ça veut dire des sacrifices. Il y a eu les incidents climatiques, la grande crise de subsistance de 1693-94, le grand hiver de 1709-1710, les populations ont souffert, on meurt de faim au XVIIe siècle, hein, même en dépit des efforts de Louis XIV pour nourrir les populations de certaines provinces. Donc le règne apparaît très long, et puis il y a les nouvelles générations qui attendent un renouveau, qui attendent peut-être qu'on desserre un petit peu la bride et qu'on gouverne un petit peu différemment.
La suite de l'histoire.
Dans votre livre, Jean-François Solnon, vous abordez la question du rapport de Louis XIV à son royaume, posant la question, disons, d'une prise de distance, en tout cas une manière d'ignorer son royaume, comme un roi qui se serait complètement retiré à Versailles et qui n'aurait vécu que là.
Oui, ça c'est la légende d'un roi enfermé dans son château et ignorant tout des peuples sur lesquels il règne. Ça c'est une image fausse, complètement fausse.
Louis XIV connaissait son peuple.
Alors, il connaissait son peuple, il connaissait son royaume, d'abord parce qu'il l'a visité. C'est pas quelqu'un qui est resté à Paris ou dans une résidence royale. Il l'a visité, et en particulier, il l'a visité très tôt, au moment de la Fronde. Lorsque le pouvoir royal, qui était entre les mains du cardinal de Mazarin et d'Anne d'Autriche, la régente, devait faire face à la révolte des grands, la cour s'est beaucoup déplacée. On pourrait multiplier le nombre des provinces que le jeune roi, vous allez dire, mais il était très jeune. Oui, sans doute, mais il y a des choses qui marquent des enfants très tôt. Et donc, le jeune Louis XIV a parcouru son royaume. Ensuite, il l'a parcouru lorsqu'il conduisait lui-même ses armées au combat sur la frontière nord, évidemment, celle des Pays-Bas, ou sur la frontière est, celle de l'Alsace ou de la Franche-Comté. Donc c'est quelqu'un qui connaît son royaume et qui est extraordinairement informé. C'est le moment où se développent évidemment les cartes de Cassini. C'est le moment où on fait réaliser cette extraordinaire chose que sont les plans-reliefs que l'on admire aujourd'hui encore aux Invalides, où les places fortes sont ainsi représentées. Et c'est quelqu'un qui reçoit dans son bureau, si j'ose dire, les agents de l'État dans les provinces, c'est-à-dire les intendants, les ancêtres de nos préfets d'aujourd'hui, les évêques quand ils sortent de leur diocèse, les gouverneurs de province. Bref, il y a une information extrêmement importante qui revient à Versailles ou à Paris, et Louis XIV en est informé. Alors, en revanche, Louis XIV n'est pas passé par les intermédiaires classiques de la monarchie française que sont les États généraux ou les États provinciaux.
Pourquoi ?
Mais ce n'est pas le seul. Parce que les derniers États généraux que réunit la monarchie sont ceux de 1789, chacun sait ça. Mais ceux qui les ont précédés remontent à 1614, c'est-à-dire une période de régence. C'était sous la minorité de Louis XIII, après la mort d'Henri IV. Et entre les deux, il n'y a pas de réunion. Bah parce que le clergé, la noblesse et le tiers-état ont des exigences, ont des prétentions, et le roi n'a pas du tout l'intention de céder à ces prétentions. Par conséquent, les états généraux ne sont pas réunis. D'ailleurs, la monarchie ne réunit les états généraux lorsqu'il y a une crise, en particulier, ce sera le cas en 89, une crise financière. Il y a ensuite les états provinciaux, qui sont une autre institution coutumière, c'est-à-dire des états généraux au petit pied. Alors, qui existe dans un certain nombre de provinces, c'est le cas de la Bretagne, c'est le cas du Languedoc, c'est le cas de la Provence, c'est le cas de la Franche-Comté, et j'en passe. Et là, le roi ne les supprime pas, il les met au silence en quelque sorte, il ne les réunit pas, il ne les convoque pas. Et puis il y a une troisième institution coutumière qui n'est pas non plus réunie, qu'on appelle l'Assemblée des notables, les notables d'un pays qui peuvent apporter des informations. Non, Louis XIV passe par ses propres intermédiaires, par ses propres agents, et il entend être informé. Et puis il l'est. Il y a quelques exceptions, évidemment. Par exemple, l'affaire des poisons montre qu'il n'était pas au courant de ces... ces messes noires, ouais, et ces pratiques divinatoires qui avaient lieu à Paris ou ailleurs.
Donc le fait qu'ils ne convoquent pas et qu'ils ne réunissent pas ces différentes instances, est-ce que c'est ça le pouvoir absolu ?
Le mot absolu, qui vient du latin, signifie un pouvoir qui n'a pas de contrôle. Pas de contrôle d'autres institutions, c'est ça un pouvoir absolu. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de limite. Et c'est la grande différence que généralement le public aujourd'hui oublie systématiquement. Quelles peuvent être les limites à un pouvoir ? Elles sont de plusieurs natures. Les premières limites, ce sont les limites données par les lois fondamentales du royaume. Les lois fondamentales du royaume concernent la succession. Quand on disait tout à l'heure « le roi est mort, vive le roi », voilà, un élément, il n'y a pas d'interruption. Et puis concernent également la gestion du domaine royal. Le roi, par exemple, ne peut pas renoncer à la couronne. Il est contraint d'exercer son pouvoir. Donc ça, ce sont les lois fondamentales. Et puis, il y a à côté les limites, j'allais dire, de la responsabilité du roi devant Dieu, puisqu'il s'agit donc d'un roi de droit divin. Il doit respecter les préceptes chrétiens. Alors, j'allais dire, peut-être que Louis XIV a pris un peu de liberté avec ses préceptes chrétiens, parce qu'il a commis, par exemple, l'adultère, voire le double adultère. Madame de Montespan était mariée. Donc, un pouvoir qui n'est pas sans limite, mais qui est sans contrôle. C'est comme ça que fonctionne la monarchie, et Louis XIV a réussi à éviter, en effet, les contrôles de ses assemblées qu'il n'a pas réunies ou qu'il a mises en sommeil. C'est un souverain qui exerce une pleine autorité et qui l'a exercée du début à la fin de son règne, et qu'il a exercé parce qu'il avait le souvenir de la Fronde. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est que toute la petite jeunesse de Louis XIV a tout de même été marquée par la révolte des princes du sang, et la révolte des magistrats, en particulier les magistrats de la cour de Paris, du Parlement de Paris, contre l'autorité royale. Et il n'a pas oublié cette révolte, et par conséquent, toute la politique de Louis XIV a été marquée par ce souvenir de la jeunesse. C'est pour cette raison qu'il a voulu que la noblesse soit une noblesse soumise. Et il a réussi à la soumettre, certains disent à la domestiquer, en la faisant venir à Versailles. Pas toute la noblesse de France, bien évidemment, mais les grands noms de la noblesse qui pouvaient éventuellement regimber à l'autorité du roi sont à Versailles et sont en effet considérés comme des compagnons du souverain. Et à Versailles, au moins, il est sûr qu'ils ne vont pas comploter et qu'ils ne vont pas fomenter de révolte dans leur province.
François Solnon, dans votre livre, au début de chacun des chapitres, vous avez mis des phrases en exergue, dont une qui est un pamphlet écrit à la mort du roi, « Sigit le père des impôts, à Saint-Denis comme à Versailles, il est sans cœur et sans entrailles ». Qu'est-ce qu'il faut voir dans ces quelques mots? Est-ce que Louis XIV était un homme sans cœur qui a saigné à blanc son peuple?
Et encore, dans l'extrait que vous citez, ce n'est qu'un petit morceau du pamphlet qui est beaucoup plus long d'ailleurs et qui est assez terrible à l'égard du roi, dont on considère que le règne est trop long, une fois encore, ici. Avant de vous répondre vraiment, il faut bien songer une chose, c'est que notre mentalité est tellement différente de celle du XVIIe siècle. Elle est même différente de la mentalité des Français de la première moitié du XXe siècle, c'est-à-dire avant les allocations familiales, avant la sécurité sociale, etc. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans le cadre d'un État-providence. Et donc la vie était dure. Est-ce que ça signifie que le roi, enfermé dans les ors de Versailles, ignorait les difficultés de son peuple? Là encore, certainement pas. D'abord parce que, comme on l'a dit, Louis XIV connaît son peuple par les renseignements qu'on lui apporte, mais pas seulement sur le papier. Il a vu les populations vivre lorsqu'il avait parcouru la France au moment de la Fronde. Mais aussi, on l'a alerté, comme l'a fait par exemple Vauban. Vauban, qui est très soucieux, en effet, de la vie quotidienne de ses compatriotes, à plusieurs reprises a alerté le roi, a écrit des textes. Le plus célèbre d'entre eux s'appelle la dîme royale. Ce que l'on sait, nous, c'est que sous son règne, il y a eu des pamphlets, avant même la mort, des pamphlets qui venaient donc de Hollande, on l'a dit, ou d'Angleterre, mais même un pamphlet terrible qui a été écrit par Fénelon, cette fameuse lettre anonyme au roi, que le roi n'a certainement pas lue, mais dans laquelle on trouve des phrases terrible. Et ces phrases terribles, elles sont restées dans la mentalité populaire, et j'allais dire presque jusqu'à nos jours.
Mais ces phrases-là, elles ne sont pas fiables, enfin.
Non, elles ne sont pas fiables parce qu'elles sont excessives. Lorsque Fénelon écrit « Vos peuples que vous devriez aimer comme vos enfants meurent de faim », c'est une phrase qui est excessive. Lorsqu'il écrit « La France entière n'est qu'un grand hôpital désolé et sans provisions », c'est également excessif. L'historien doit prendre ça avec beaucoup de précautions et puis de regarder, en effet, comment les choses se sont passées. Il est vrai que Louis XIV a inauguré son règne personnel, j'entends, c'est-à-dire après la mort de Mazarin en 1661, au moment d'une grande crise économique et crise démographique. Bon, le roi n'est pas responsable, évidemment, de la météo. Et il y aura d'autres moments difficiles dans ce qu'on a appelé le petit âge glaciaire du XVIIe siècle, des moments difficiles sur le plan climatique. On cite toujours le grand hiver de 1709. Est-ce que le roi est resté passif devant les difficultés de nourriture de certaines de ses provinces? Certainement pas, parce qu'il a eu l'habileté de commander à des chefs de bateaux, voire à des corsaires, eh bien d'aller chercher du blé dans des régions étrangères qui en étaient pourvues. Évidemment, ça ne réussissait pas à combler les déficits. Mais ça montre, si vous voulez, qu'il y a eu cette idée, qu'il y a eu un souci. Chaque fois que c'était possible, le roi a essayé, en effet, de résoudre ces problèmes dans la mesure des moyens. Alors, on peut toujours dire que c'était insuffisant, c'est bien évident. Mais il y a cette prise de conscience.
Et quand vous citez un maître d'armes parisien dans votre livre, hein, Jacques Le Perche, 1702, le roi se fout du peuple.
Ah oui, ça c'est un... un cri
du cœur,
ou du ventre, si l'homme est affamé, qui est digne d'être noté. Parce que, est-ce que vous croyez que l'on peut faire aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, ça peut être aussi hier ou avant-hier, l'histoire de la vie quotidienne des Français du 21e siècle, à partir de pamphlets, à partir d'ouvrages satiriques? Certainement pas. Donc il faut prendre avec précaution. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme ils sont peu nombreux, j'ai voulu conserver cette phrase particulièrement laconique et forte. Le roi se fout du peuple, ça c'est, fallait pas rater, si vous voulez, une telle expression.
C'est une trouvaille.
Un petit peu, oui, en quelque sorte. Bon, mais ça ne veut pas dire que ça correspond à la réalité.
Et que ça résume la totalité du règne de Louis XIV.
Du long règne de Louis XIV, certainement pas. En revanche, ce qu'il faut dire, pour avoir des choses beaucoup plus concrètes encore, c'est que Louis XIV... a créé, à l'occasion des guerres, a créé des impôts qui peuvent être considérés comme des impôts révolutionnaires. Alors, que ce n'est pas donné, je le dis d'ailleurs dans le livre, tous les résultats escomptés, c'est évident. Hein. Mais ça montre tout de même la volonté d'essayer de soulager la misère des peuples dans des circonstances graves.
Vous terminez le livre, Jean-François Solnon, en citant une phrase que l'on attribue à Louis XIV, que à peu près tout le monde connaît, ça fait partie de ces citations qu'on a tous en tête, « L'État, c'est moi ». Et vous expliquez que Louis XIV n'a jamais dit ça.
C'est un peu ambitieux pour un historien, plusieurs siècles après, de dire « il n'a jamais dit telle chose ». En êtes-vous vraiment sûr? Non, c'est pas seulement qu'il ne l'a jamais dit, c'est qu'il n'a pas pu le dire.
Pourquoi?
Parce que c'est pas la conception de la monarchie. Il n'y a pas de confusion entre l'État et le roi. Contrairement à ce que l'on entend en effet encore aujourd'hui, et même, je dois vous avouer qu'il y a même des historiens qui reprennent à leur compte cette formule. Il y a une phrase que Louis XIV a prononcée, et là on en est sûr, puisque c'est sur son lit de mort et que ça a été noté par les témoins. Louis XIV a eu cette phrase, admirable par ailleurs, « Je m'en vais, mais l'État demeurera toujours ». C'est exactement le contraire de « l'État, c'est moi ».
Ça invalide totalement cette...
Complètement. Complètement.
Soi-disant,
il y a la conscience de la pérennité de l'État, au-delà même de la personne du roi. Les spécialistes du droit constitutionnel aujourd'hui s'interrogent pour savoir si le roi de France au XVIIe siècle avait autant de pouvoir qu'un président de la Ve République.
Et la réponse, selon vous,
je ne suis pas sûr que le roi de France ait eu autant de pouvoir. Parce que ce qu'on oublie toujours, ce qu'on voit toujours Louis XIV en perruqué, la canne à la main, dans la galerie des glaces de Versailles, et pour nous, ça résume en quelque sorte l'autorité suprême. Il faut voir quelles sont les limites, quelles sont les contre-forces, quelles sont les institutions routinières qui s'opposent aux actes de la monarchie. En plus, il y a ce sentiment que l'on ne fait que passer... Même à la tête d'un État qui est le plus important, le plus puissant de l'Europe du temps, on fait que passer, mais en réalité, l'État demeure, et comme le prétend Louis XIV ici, à tort, bien entendu, parce qu'il va finir par s'écrouler cet État monarchique, l'État demeurera toujours. C'est ça, je crois, qui résume la vision qu'a Louis XIV. Louis XIV, il s'est même adressé à des petits commis de chambre ou de garde-robe au moment où il est sur son lit de mort et qui pleurait en leur disant « Mais enfin, vous m'avez cru immortel, mais moi, j'ai jamais pensé être immortel. »
Conclure en quelques mots, Jean-François Solnon, 300e anniversaire de la mort de Louis XIV ces jours-ci. C'est un roi qui a toujours beaucoup de succès à travers les ouvrages, à travers les films, très souvent évoqué, en particulier en France évidemment.
Et à l'étranger.
À l'étranger
beaucoup
aussi,
à l'étranger.
Oui. Mm-hmm. Pourquoi d'après vous? Pourquoi est-ce que ça reste une figure aussi fascinante?
Fascinante parce que c'est un souverain qui est à la tête d'un royaume qui est extrêmement nombreux. Hein. On a probablement 22 millions de Français à la mort du roi. Il y a beaucoup d'autres pays qui plafonnent à 6 ou 7 millions. Donc il y a déjà une puissance démographique. Il y a eu une puissance militaire. Il y a le rayonnement de la civilisation. Il est vrai que l'État s'est renforcé au temps déjà de Richelieu, Et Louis XIV marche sur les brisés, en quelque sorte, ici, à la suite de Richelieu, le renforcement de l'autorité de l'État, le prestige de la couronne, le prestige du souverain, parce que là, il a les qualités pour gouverner véritablement, il a su s'entourer, il y a quand même de grands ministres qui l'ont accompagné, il y a Colbert, il y a Louvois, dans le domaine militaire, il y a de grands généraux, le maréchal, il y a Turenne, il y a Condé, enfin, c'est ces figures-là, ça compte, et on a, sur le plan artistique, évidemment, et littéraire, un rassemblement de grandes figures, tout ça fait, comme le disait M. de Voltaire, un véritable siècle, et c'est en ce sens qu'il reste une figure majeure, en France et en effet à l'étranger, parce que chacun connaît à l'étranger le roi Soleil, Louis XIV.
Merci beaucoup Jean-François Solnon d'avoir évoqué Louis XIV donc à l'occasion du 300e anniversaire de sa mort. Je rappelle que vous êtes historien, que vous avez enseigné à l'université de Franche-Comté. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages consacrés à l'Ancien Régime. Le dernier en date qui nous a donc servi pendant ces entretiens s'intitule « Louis XIV, vérité et légende ». Il est paru chez Perrin. Merci.
Merci.